Bonsoir. Il convient donc d'introduire cette soirée aux facultés Loyola Paris autour du livre d'Henri Lot, Introduction au traité théologico-politique de Spinoza, en compagnie de Pierre-François Moreau et Laurent Bove, que nous sommes très honorés d'accueillir. Je les remercie vivement de leur présence en cette fin d'année universitaire souvent chargée et je remercie chacun de vous également d'être présent. Il est impossible de présenter de manière exhaustive l'œuvre et la carrière de Pierre-François Moreau et Laurent Bove, et je ne dirai donc que l'essentiel. Pierre-François Moreau est professeur émérite à l'École normale supérieure de Lyon, spécialiste de Spinoza et de la pensée moderne. Il dirige au PUF l'édition des œuvres complètes de Spinoza, dont le plus récent volume paru est l'Éthique en 2020. Laurent Bove est professeur émérite de l'Université de Picardie, président de l'Association des Amis de Spinoza. Spécialiste de Spinoza et de Vauvenargues, il est également l'auteur d'un livre sur Albert Camus et son ouvrage le plus récent, paru en 2019, s'intéresse à la peinture de Peter Bruegel, dont il met au jour les rapports insoupçonnés avec la philosophie à venir de Spinoza. Alors, il y a déjà 2 ans, nous discutions ici même du livre d'Henri Lot, Spinoza et le christianisme, paru en 2022, fruit de sa réflexion sur l'intérêt que présente la pensée du philosophe pour les théologiens contemporains. Le livre se trouve d'ailleurs sur la table du libraire derrière vous. Si cette introduction au traité théologico-politique de Spinoza semble d'un autre ordre, elle s'inscrit bien dans la continuité de l'œuvre que je dirais bicéphale d'Henri. Spécialiste de Spinoza, Henri Lot est en effet également l'auteur d'une œuvre consacrée à la question de Dieu et à la mystique, dont font partie des ouvrages tels que « Le Dieu excentré » de 2003 et « Pour une existence spirituelle » de 2017, dont Spinoza n'est pas absent et c'est une litote. Il est également spécialiste de Jean-Joseph Surin, auteur du XVIIe siècle, dont il a édité « Les questions sur l'amour de Dieu » en 2008. Philosophe et théologien, Henri Lot est animé par la conviction que théologie et philosophie peuvent se rencontrer à la mesure, là je reprends ces mots, à la mesure de la profondeur à laquelle chacune est passée. La rigueur avec laquelle il observe et garde tout confusion entre les disciplines et de toute facilité de transfert et fonde la possibilité d'un dialogue fructueux. L'introduction au TTP qu'Henri nous présente ce soir n'est pas seulement un recueil d'articles. Elle propose une entrée érudite et exigeante dans l'œuvre de Spinoza, en 8 chapitres qui correspondent à la question majeure soulevée par l'ouvrage. Elle suggère aussi une interprétation du texte comme matrice d'émancipation politique et métaphysique par la voie de l'interprétation renouvelée des signes, qu'ils proviennent de l'écriture, de l'histoire ou des passions individuelles. Je vais vous donner quelques indications sur le contenu de ces 8 chapitres, cela pour ceux qui n'auraient pas encore lu l'ouvrage et pour peut-être plus de facilité dans l'échange tout à l'heure. Le premier chapitre porte sur la présence du TTP dans la correspondance de Spinoza et constitue une excellente introduction aux difficultés soulevées par le texte en son temps ainsi qu'à leur actualité. Les deuxième et troisième chapitres portent sur le rapport entre philosophie et théologie dans le TTP. Le désir de philosophie signifie-t-il la disparition de la théologie ? Henri Lot revient sur sa discussion féconde avec André Tozel à cette occasion. Est-ce que la théologie et la religion sont entièrement dépassées par la philosophie dans le TTP? Henri propose plutôt une interprétation du TTP comme, je le cite, « lieu de transition, d'une pluralité de transitions à l'intérieur de la religion vers la philosophie, à l'intérieur de la philosophie ». Le TTP est donc une invitation à réviser en raison les pratiques religieuses de l'imaginaire, propose-t-il. Et là, je le cite plus longuement. Si le philosophe a connaissance des choses dans leur exadéploiement, c'est seulement en droit, car il ne coïncide sans doute que très rarement en totalité avec l'idée adéquate de Dieu. Il a aussi rapport aux multiples écritures historiques qui composent le champ de ses déterminations. Il peut trouver dans la théorie de l'imaginaire de quoi mieux les comprendre et les rectifier, de quoi soutenir le mode d'être qu'il a pour désir de porter à son achèvement. Il y a là, me semble-t-il, une forte invitation faite à la théologie qui n'en est pas dépassée ou invalidée pour autant. Au chapitre 4, il est question de l'éthique propre au TTP et Henri montre que s'y déploie une dynamique affective qui s'ouvre à l'agir moral à partir de l'amour de Dieu, qui constitue, dit-il, le milieu de l'activité éthique avant toute loi. Ici déjà, me semble-t-il, se fait entendre la conclusion du livre d'Henri qui rappelle qu'il n'est pas de liberté politique sans amour de la liberté, équivalent à l'amour de Dieu. Le chapitre suivant interroge la critique par Spinoza de la notion d'élection du peuple hébreu et fait valoir le modèle de l'universalité que met en lumière le TTP, ancré dans le texte paulinien. Le chapitre 6 porte sur le Christ de Spinoza. Sans être une figure politique, celui-ci engage à la politique. Il enseigne, dit Henri, un certain type de lien social et le construit. Dans ce chapitre, Henri suit Laurent Bove et le cite, c'est le lien social qui est sacré, la communauté des hommes en elle-même. En cela, le Christ de Spinoza est avant tout un homme libre qui exprime une manière de persévérer dans l'être. Sur la liberté de pensée et de parole que toute organisation politique doit assurer selon le TTP, le chapitre 7 rappelle que ces limites, justifiées par la nécessité de la protéger de tout arbitraire, ne sont pas des restrictions, mais des facteurs d'intensification de la liberté. Quant au dernier chapitre, il porte sur la puissance propre au TTP comme texte. Lui aussi persévère dans son être, produit des effets éthiques, invitant au travail de l'interprétation vraie du texte biblique, qui seul peut donner son effectivité au droit. Interpréter, c'est lire, c'est donc au lecteur de contribuer à la puissance du texte en l'interprétant de la manière la plus ajustée possible. Alors voici pour le contenu de ce texte, de ce livre d'Henri, dans lequel le lecteur ne trouvera toutefois pas seulement une explicitation des lieux problématiques propres au TTP, mais me semble-t-il une thèse forte. Le TTP est un texte, dit Henri, qui fait signe. Il fait signe vers la liberté. Ce n'est pas seulement la liberté politique et sociale qui est en vue, mais la liberté dans son sens absolu, écrit Henri dans une conclusion, qui met en résonance les notions qu'il a précédemment individuellement déployées. Il ajoute qu'il n'est pas seulement question pour Spinoza de conquérir la liberté, mais de l'aimer. Elle n'est pas seulement de l'ordre du droit, mais plus originairement de l'amour. La liberté dans le TTP doit donc être métaphysique pour être réellement politique. Je cite Henri encore une fois, on ne l'enracine pas dans une communauté par la contrainte du droit. Or, qu'est-ce qu'aimer la liberté? C'est comprendre, et comprendre, c'est bien prendre le risque de la parole. Le TTP ne viserait pas seulement la tolérance religieuse, mais la pratique d'une parole libre, écrit Henri, peut-être pas seulement d'une liberté de parole. Une parole libre consiste à procéder, là je cite Henri, à une nouvelle lecture des signes qui composent notre histoire, de manière à en identifier les dérives passionnelles et à les stabiliser pour un sens nouveau, en vue de la justice et de la charité. Le citoyen n'est donc pas seulement un homme libre, c'est un homme qui s'emploie à toujours déployer une parole libre, c'est-à-dire conduite par la raison et l'amour de la liberté, c'est-à-dire de Dieu. Je terminerai avec une question, cher Henri, si vous me le permettez. Dans le Dieu excentré qui appartient à l'autre veine de votre œuvre, disons, théologique et spirituelle, vous écrivez que le mystique est celui qui déploie de la manière singulière, une parole libre. Je vous cite, la raison mystique est structurée par un objet et une modalité. L'objet, c'est la constitution d'une parole libre, la modalité, le secret engendrement de cette parole. Peut-être pourrez-vous nous dire quel lien vous faites entre la libre parole du citoyen, la parole libre du sage et celle plus secrète du mystique. Mais ce sera pour tout à l'heure. Pour l'instant, je donnerai la parole d'abord à Laurent Bove pour une petite demi-heure.
Oui, bien, je vous remercie infiniment et également de l'invitation à venir dialoguer avec deux grands amis, hein, Pierre-François et Henri. Alors, bon, le résumé éclairant vous a déjà été donné. Hein. Je dirais que le projet de l'introduction au TTP de Spinoza d'Henri Lot est de traiter du rapport de la liberté avec le théologico-politique dans le contexte social-historique de la liberté de parole, qui est tenu pour un droit absolu de nature, propre au genre humain. Et comme tu l'écris En conclusion de ton ouvrage à propos de l'amour de la liberté, et plus particulièrement de la liberté de parole, bien plus, voire autrement qu'un essai sur la tolérance, le TTP met la parole à hauteur d'absolu. Quelle parole ? Celle que cherche la raison dans la composition des désirs de chacun, la parole vraie, adéquate à elle-même, quand l'individu relève de son droit, une parole, précises-tu, qui fonde la cité. Toute l'importance de ton ouvrage, importance majeure pour la communauté philosophique ainsi que pour la communauté qui se retrouve dans et par une parole théologique, toute l'importance de ton ouvrage donc, c'est d'affirmer que Spinoza a énoncé dans son traité les conditions des pratiques d'une vie commune et plus concrètement d'une pratique de la citoyenneté qui fait effort vers la justice et la paix dans la pluralité de leurs expressions. Et ainsi que le TTP, publié anonymement en 1670 et qui a ouvert en son temps une des crises les plus violentes et les plus profondes de l'autorité dans l'histoire politique et sociale de la pensée, que ce livre dont on a rappelé encore récemment, tu cites le titre de l'ouvrage de Steven Nadler, qu'il était forgé en enfer, ce livre est cependant, en vérité, le puissant générateur d'une éthique de liberté dans la concorde et la paix, dont les lecteurs d'aujourd'hui doivent savoir recueillir la leçon, en assurant des pratiques de citoyenneté que l'ouvrage enseigne pour notre temps. Pourtant, tu le soulignes, les 20 chapitres du TTP à travers lesquels on peut lire des attaques parfois très violentes, comme dans sa préface envers la religion, tant juive que chrétienne, dans le traitement que Spinoza réserve au personnage du théologien, à la conception de la révélation biblique et la manière de se rapporter à Dieu, à l'interprétation des Écritures, à la théorie de la souveraineté et à la place des cultes religieux, l'ensemble de ces chapitres, donc, ne trouve qu'assez difficilement, du moins à première vue, une unité de sens. D'où le déchiffrage difficile de l'enseignement véritable du livre et une histoire de la réception qui ne verra majoritairement dans le TTP qu'un ouvrage pernicieux et détestable, comme l'a écrit Pierre Bayle, dont tu cites l'article Spinoza dans le Dictionnaire historique et critique de 1697. Tu annonces pour ta part, dès ton introduction, qu'il s'agit bien au contraire d'un livre qui fait signe vers la liberté, dont il va explorer les voies. Et que si Spinoza s'en prend à la religion chrétienne, en tant que superstition, c'est en accusant cette religion d'infidélité à son message, donc d'infidélité à la doctrine authentique du Christ et ou au contenu théologique de cet enseignement, soit à, je te cite, l'unique doctrine, celle du sermon sur la montagne, à laquelle tu te réfères deux fois, dans une note, et à la page 122, dans une note rappelant l'annotation de Spinoza lui-même, qui mentionne que toute la doctrine du Christ est celle que Jésus-Christ avait enseignée sur la montagne, et dont saint Matthieu fait mention au chapitre 5 et suivant. C'est sous cet éclairage que tu vas introduire aux enjeux du TTP et à l'intelligence qui l'anime. Introduire, dis-tu, c'est-à-dire entrer dans le travail du texte pour comprendre les transformations qu'il suscite et en être affecté. Sur la base des difficultés des différents champs conceptuels de l'ouvrage, il va alors s'agir d'examiner la nature et la fonction de la théologie dans son rapport à la production de la liberté individuelle et de la liberté commune, car c'est d'abord sous la condition du commun que Spinoza pose la question de la liberté en regard du complexe théologico-politique. Nous sommes ainsi conduits au cœur du système ou de la philosophie de Spinoza. Et cela selon un devenir philosophe du lecteur du TTP, qui, loin de voir exclure la religion de son horizon personnel, comme de l'horizon social historique, en expérimente en réalité la profonde réforme de l'imaginaire qui la traverse et la constitue à partir d'une nouvelle méthode, qui est la méthode d'interprétation de l'écriture au cœur du traité théologico-politique dans son chapitre 7. Pour entrer un peu plus dans le détail de ton ouvrage, je m'arrête sur ce premier point et ton rappel à la discussion avec André Tozel, qui a déjà été nommé et qui, malheureusement, aujourd'hui est aujourd'hui disparu. Une discussion sur le sens même du TTP suite à la publication en 1993 de ton ouvrage majeur, Imagination et religion chez Spinoza, La potentia dans l'histoire. Un débat devenu depuis classique et un passage obligé pour tout nouveau lecteur du traité théologico-politique. Alors je rappelle très rapidement les données essentielles de la discussion. Ce qui vous réunit avec André Tozel, c'est que la lecture du TTP convie nécessairement à effectuer un chemin dans lequel Spinoza souhaite d'abord faire entrer son lecteur, l'accompagner, puis le laisser à sa liberté d'interprétation. Ce qui vous sépare, c'est le contenu et la signification du parcours, même si l'orientation de ce parcours est finalement chez vous deux, identique. Pour Tozel, ce chemin est celui des croyants de bonne volonté, ceux qui accompagnent et entourent Spinoza, que le TTP conduit comme par la main de la croyance à la raison, le TTP étant alors conçu comme une introduction à la philosophie, ce qui signifie qu'au terme de ce parcours, la religion qui était au point de départ devient inutile pour le philosophe. De ton point de vue, le parcours suscité par la lecture du TTP est également celui d'une réforme, mais d'une réforme de l'imaginaire religieux. Dans et par son processus de transformation, le croyant expérimente alors dans son esprit comme dans son corps, c'est-à-dire dans son style de vie, ses pratiques de vie, l'avènement singulier d'une convenance structurelle de la religion libérée, dis-tu, avec la philosophie en tant qu'éthique. Si religion et théologie demeurent au sens spinoziste de l'ordre de l'inadéquat, le TTP ouvre cependant, dans et par cet ordre, un possible processus adéquat à la vérité. Je te cite à la page 75. Processus par lequel les œuvres de charité deviennent de plus en plus libres et ont l'aspect de l'activité. Une charité, précises-tu, qui devient un exercice politique, l'unité politique pratiquée par l'individu, l'unité pratiquée par l'individu avec son Dieu, s'étendant jusqu'à l'unité avec ses concitoyens. Alors, l'originalité de ton propos, c'est ainsi de considérer le traité à travers l'objet premier qu'il aborde, à savoir la théologie et la politique, ou leur articulation dans la religion, et très précisément le problème de l'interprétation. Le projet du traité théologico-politique n'est donc pas pour toi d'enseigner une sortie de la religion, ni de l'économie du théologico-politique, d'abord dominé par le théologien qui est l'adversaire principal de Spinoza, mais bien plutôt de déterminer un double régime d'adéquation, d'une part entre théologie et politique, d'autre part entre religion et éthique spinoziste, et cela au profit de la liberté individuelle et commune. Ton propos peut, au premier abord, être un peu déroutant, car si le premier aspect de l'objet du TTP est évident, soit le problème du rapport entre la théologie et la politique, problème que Spinoza souligne dès son titre par l'ambivalence du trait d'union, le lecteur pourrait néanmoins être surpris par la façon dont tu penses immédiatement la nécessité de cette articulation dans la religion elle-même. Car c'est plutôt dans et par la politique qu'on attend cette articulation chez Spinoza. Pour deux raisons principales. La première, c'est la cause, selon Spinoza, de l'histoire catastrophique du christianisme qu'il attribue à la séparation originaire de la religion et de l'État. La seconde, c'est, à ce même propos, le modèle biblique de l'État des Hébreux qui enseigne combien il est nécessaire que le théologique soit compris à l'intérieur des institutions de l'État, car ce n'est que sous le contrôle absolu du souverain, et non pas des ecclésiastiques, que l'enseignement de la parole de Dieu pourra opérer au plus profond des âmes, ce que tu développes toi-même, par ailleurs, au chapitre 8 de ton livre, à propos de l'interprétation du droit civil et des affaires sacrées qui appartiennent exclusivement aux détenteurs du pouvoir souverain. Tu as cependant ajouté à ton affirmation sur l'unité du théologique et du politique dans la religion une précision éclairante que je rappelle. Tu écris en effet qu'il faut considérer le traité à travers son objet principal, à savoir la théologie et la politique, ou leur articulation dans la religion, et très précisément, ajoutes-tu, le problème de l'interprétation. En ce qui concerne en effet la question du rapport de la religion à l'État, alors que les théologiens interprètent l'Écriture, mais pour la falsifier, dis-tu, c'est l'interprétation vraie, la méthode vraie, qui donne son effectivité au droit. Elle l'inscrit dans le réseau de la citoyenneté et par là permet à la société politique de persévérer dans son être, d'exercer réellement sa puissance. Fin de citation. Et c'est cette voie de l'interprétation, celle d'une raison au travail, qui va en effet éclairer singulièrement l'ensemble de ta perspective sur le TTP comme philosophie de l'historicité. Car cette voie est celle d'une transformation de nature éthique, à la fois du lecteur et de la religion elle-même, comme de tout imaginaire historique, dans son articulation à ce que l'on peut appeler la socialité et la citoyenneté. Le lecteur croyant doit, par la voie du TTP, accéder à un autre régime de puissance de la religion, celui d'une religion libérée qui, ayant compris le sens de l'Écriture, adopte des comportements de justice et de charité en vue de la concorde et de la paix. Quant au lecteur a-religieux, il acceptera quant à lui positivement que la parole authentique d'une religion libérée joue un rôle actif dans la constitution de la vie commune. Et je pense en ce sens à ce qu'a écrit André Tozel, qui s'est, sur le plan de la pratique, singulièrement rapproché de ta position dans son ouvrage de 2015 sur la laïcité. Dans la seconde partie de son livre « Nous, citoyens laïcs et fraternels », seconde partie qui porte sur une conception de la laïcité au miroir de Spinoza, Tozel, en partant de la distinction traditionnelle entre religion extérieure et religion intérieure, va montrer comment Spinoza transforme en profondeur cette distinction en inversant ses effets historiques de la confrontation des particularismes religieux à la conciliation universelle des singuliers. Une conciliation rendue possible par, dit-il, le fond quasi rationnel de l'imaginaire religieux, dont le lien constituant de socialité et de solidarité peut alors être tenu pour celui d'une nouvelle figure matricielle de la laïcité, ou plutôt, dit Tozel, d'une méta-laïcité. Tu cites d'ailleurs cet ouvrage d'André Tozel dans ta note 1 de la page 121, mais c'est alors pour indiquer la conception que Tozel donne du Christ de Spinoza en tant que réformateur moral. Ce qui est également vrai pour toi. Vrai, mais encore insuffisant. Car tu vas approfondir ce point de vue pour souligner la rencontre profonde de cet enseignement avec la socialité et finalement la signification politique que cet enseignement moral va prendre, confirmant ainsi ta thèse majeure de l'articulation de la théologie et de la politique dans la religion, c'est-à-dire, en dernière analyse, dans la doctrine enseignée par le Christ. Ce chemin d'un Christ dont Spinoza reconnaît, dis-tu, l'intelligence politique, adaptée avec le meilleur exercice de la puissance de l'État, est assez audacieux, même au sein des études spinozistes. Un Christ politique dont la doctrine réalise et renforce le désir du vivre ensemble dans la liberté et la raison. Et l'on peut remarquer en effet que si l'on confronte la doctrine du Christ à ce que dit Spinoza dans le chapitre 16 du TTP sur la promesse, au principe du pacte social. L'enseignement du Christ vient effectivement réaliser le sens et la valeur laïque de cette promesse dans la pratique quotidienne de la justice et de la charité, enseignement majeur de l'Écriture. Je rappelle ce que dit cette promesse spinozienne. 1. Tout diriger selon le seul commandement de la raison. 2. Refréner l'appétit dans la mesure où il conseille quelque chose de dommageable à autrui. 3. Ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous fît. 4. Enfin, défendre le droit d'autrui comme s'il s'agissait de son propre droit. La logique de cette promesse qui suit de fait la dynamique unificatrice et par là rationnelle des lois de l'imitation avant leurs conséquences négatives nous enjoint à défendre le droit d'autrui comme s'il s'agissait de notre propre droit. C'est un principe déjà développé dans la prescription de ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous fût fait, et c'est selon la même loi d'identification qu'on peut aussi positivement faire envers nos semblables par raison ou commisération, dit Spinoza, à moins d'être inhumain, tout ce que nous souhaiterions dans la même situation qu'ils eussent fait pour nous. Or, tout l'enseignement de la foi, selon l'Écriture, repose dans ce précepte du sermon sur la montagne, j'y reviens, auquel Spinoza renvoie le lecteur. C'est une règle d'or, tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le aussi pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Par ce précepte, l'enseignement de la foi réalise de fait et véritablement le principe même de la sagesse par laquelle tient une société. Je reprends ici ta très belle expression de la page 151. Elle réalise véritablement cette sagesse en retrouvant le sens et la valeur rationnelle et vivante de la promesse. Une promesse qui n'exige en elle-même aucune obéissance à des lois particulières, mais qui sacralise le lien social lui-même en tant que constituant l'humanité des hommes et la liberté effective qui la conserve et la défend. Cette identification est réitérée en Traité politique 5.1. Spinoza affirme que la religion enseigne à aimer son prochain comme soi-même et par conséquent que chacun doit défendre le droit d'autrui comme le sien propre. Le précepte au principe de la promesse est ainsi repris dans le langage du droit et en traduction de ce que le chapitre 12, paragraphes 10 et 11 du traité théologico-politique posait comme le fondement universel de la religion, à savoir aimer Dieu plus que tout et son prochain comme soi-même. Tu t'appuies d'ailleurs sur le traité politique pour conclure ton chapitre 6 sur le Christ et la politique en écrivant que le Christ est plus politique qu'un philosophe, au sens de l'idéalisme philosophique, bien sûr, au sens où le Christ ne s'est pas trompé sur la nature humaine, il ne l'a ni idéalisée, ni raillée, ni condamnée, comme ont pu le faire les théoriciens ou les philosophes, voire les théologiens. Et que c'est en ce sens, sous l'aspect de l'éthique, que le Christ est le plus profondément politique, alors même qu'il ne prétend aucun pouvoir dans l'État, il indique à tous une pratique possible de la politique. Une pratique qui est donc celle d'une intelligence politique adaptée, dis-tu, avec le meilleur exercice de la puissance de l'État. Et c'est là que l'on se confronte à la réalité. Car Spinoza le souligne, le Christ historique enseigne sous une conjoncture où l'on ne peut plus miser, si je puis dire, sur la puissance effective de l'État, ni sur la réforme. Dans la Palestine du 1er siècle, dominée par les Romains, le Christ a, selon Spinoza, anticipé la disparition de l'État d'Israël et il enseigne une doctrine qui ne peut être articulée à aucune politique effective d'un État de son temps, car cette doctrine est seulement adaptable à une libre république démocratique dans laquelle le fond quasi-rationnel de l'enseignement de la loi, de la foi, devenu enseignement de la théologie par des ministres du culte qui seraient nourris par l'État, pourrait rencontrer et réaliser dans et par les pratiques sociales les préceptes rationnels de la promesse au fondement de la vie commune. Si je te suis donc sur la dimension éthico-politique de l'enseignement du Christ, Je suis plus pessimiste que toi, je pense avec Spinoza, sur l'effectivité de cet enseignement dans l'histoire, et cela du fait d'abord, comme y insiste Spinoza, de son indépendance originelle vis-à-vis de l'État, puis inversement, de son entière dépendance à des institutions ecclésiastiques qui vont favoriser de nouveaux rapports de domination et la perte du sens et de la valeur de la doctrine primitive. Ce qui conduit Spinoza de manière assez outrancière, il est vrai, quand on pense à son ami Simon de Vry, que tu cites, dont tu cites la lettre 8, et aux chrétiens libéraux qui l'entourent, ce qui conduit Spinoza à affirmer dans la préface du TTP que rien, ni il, n'est demeuré de la religion, que le culte extérieur. Ce qui me conduit, pour terminer la présentation de ton ouvrage, puisque pour Spinoza, ce sont les rapports de domination qui ont historiquement refoulé, effacé la doctrine du Christ, à m'arrêter sur l'importance de l'égalité politique et sociale. Égalité qui est un des premiers besoins de la communauté politique, écrit Spinoza en Traité politique 7-20. Et à m'arrêter sur le rapport de cette égalité avec le principe de la liberté de parole et de citoyenneté dans le TTP. Si je souhaite insister sur cette question, c'est parce que dans l'article 1 du chapitre 3 du traité politique, Spinoza définit la citoyenneté par la jouissance, selon le droit civil, de tous les avantages de la cité et qu'il donne explicitement ensuite le primat à l'égalité dans la jouissance de ces avantages, le primat à l'égalité sur la liberté, en affirmant, article 8 du chapitre 10, que sans l'égalité, la liberté commune tombe en ruine. Alors, tu ne parles pas explicitement de l'égalité dans ton livre, égalité que Spinoza, dans le traité politique 18, associe, quant à lui, à l'amour de la liberté. L'égalité n'apparaît que de manière indirecte dans ton chapitre 5, sur l'élection des Hébreux, et sa signification exclusivement politique et temporelle. À propos de l'égalité des Juifs et des Gentils. Tu regrettes d'ailleurs, de ce point de vue, que Spinoza ait ignoré le sens théologique positif de l'élection comme signe d'une bénédiction pour tous, ce qui nous rapproche effectivement de la question de l'égalité. Tu te réfères alors, dans un très beau développement sur le désir d'inclure, à Éthique 4, et au processus par lequel se recherche un bien partageable, accessible à tous, commun à tous, si bien que tous les hommes peuvent en jouir, car ce bien n'est pas un privilège. Tu cites à ce propos la proposition 36, puis la seconde démonstration de la proposition 37, et tu conclus « Par là se comprend le vrai sens de la religio et de la pietas », c'est-à-dire dans les ressources qui sont au fondement de la cité. Et effectivement, chez Spinoza, au fondement de la cité, le désir de société, qui est exprimé dans la promesse du chapitre 16, enveloppe un désir d'égalité que religio et pietas viennent justifier et renforcer dans et par l'autorité suprême dont chacun dispose pour juger librement de la religion et par conséquent de l'expliquer et de l'interpréter pour soi. La position des dogmes fondamentaux de la foi et la réduction de l'enseignement de l'Écriture à ce credo sont ainsi corrélées à ce que l'on peut tenir pour une égalité de droit que chacun manifeste dans l'interprétation qui lui convient le mieux afin d'obéir à la loi de justice et de charité. Tu poursuis ainsi, par le statut de libre lecteur ou de libre interprète reconnu à chacun, c'est l'exercice de la citoyenneté qui est refondé dans les conditions de la démocratie exposées au chapitre 20 du TTP. Bien que non explicite, la question de l'égalité n'est donc pas absente dans ton livre, puisque la critique de l'élection débouche sur la communauté universelle des droits. Mais j'aimerais cependant que tu reviennes plus longuement et plus directement sur la place que tu accordes au droit à l'égalité dans le TTP, et à l'articulation entre cette égalité et la liberté de philosopher, c'est-à-dire la liberté de croire sa parole, qui est le principe à partir duquel on peut, dis-tu, comprendre et juger de la politique. Car si la primauté revient effectivement à l'expression de la liberté, il semble bien que du traité théologico-politique au traité politique, ce soit cependant, même avec des nuances entre les deux ouvrages, que ce soit sous le primat politique de l'égalité des droits que Spinoza défend la liberté de parole. Alors je termine sur cette question en te félicitant chaleureusement pour ton ouvrage.
Merci beaucoup, Laurent. La parole est maintenant à Pierre-François Moreau.
Bon, puisque Laurent termine en te félicitant, je vais commencer en te félicitant, afin d'enchaîner de façon logique mon intervention avec la sienne. Pour être plus concret dans la félicitation, je veux dire que ce qui me fascine dans ton livre, d'abord, c'est que c'est un livre que tu as mis longtemps à écrire. Le plus ancien chapitre, au moins dans sa version primitive, date de 1995. Donc ça fait donc, c'est un livre qui a 30 ans d'âge. Enfin, non pas au sens où il aurait été publié il y a 30 ans, mais au sens où il a été pensé, où son contenu et ses méthodes ont été accumulées pendant 30 ans. Et d'autre part, c'est un livre qui, d'une certaine façon, est un livre de dialogue. Je veux dire par là, non pas simplement que tu as l'habitude de dialoguer, dans la mesure, par exemple, où tu es le responsable, avec moi, du bulletin biographique spinoziste. Ça fait des années que tu vois passer sous tes yeux tous les livres qui parlent de Spinoza, tous les articles qu'il mentionne, sauf maintenant, on ne parlera plus d'articles, puisqu'ils sont faciles à trouver sur Internet. Mais enfin, tous les livres. Donc, il y a ceux dont que tu recenses toi-même et ceux dont tu confies la recension aux autres, mais pour confier la recension, il faut déjà que tu aies regardé ce qu'il y a dedans, afin de trouver le meilleur recenseur possible. Donc, en un sens, tu es placé dans un lieu absolument central dans l'étude spinoziste, et depuis longtemps, et j'allais dire depuis le début, puisque ce premier article de 1995 que je citais est déjà un dialogue avec Tozel. Le suivant est un dialogue en forme d'hommage avec Matteron. Ce qui me frappe dans ce livre, c'est que non seulement tu dialogues avec un certain nombre d'auteurs, à commencer par Spinoza lui-même, mais aussi tu abordes un grand nombre de questions, soit de façon directe, soit de façon transversale. Alors je ne vais pas pouvoir toutes les traiter aujourd'hui, pas toutes les aborder. Je vais en choisir une qui, après tout, est peut-être la question centrale du traité théologico-politique lui-même, je veux dire la question de la lecture. En effet, qu'est-ce que c'est que le TTP? Ah oui, pour ceux qui n'ont pas l'habitude du spinozisme, entre nous, quand on dit TTP, ça veut dire traité théologico-politique. Vous excuserez cette manie ou cette faiblesse récurrente. Au fond, qu'est-ce que c'est que le TTP? Sinon, une méthode de lecture ou des leçons de lecture de la Bible, mais aussi explicitement de Maïmonide, implicitement de Hobbes, peut-être de Machiavel, une lecture aussi des théoriciens du pacte et du droit. Donc c'est un livre qui non seulement lit beaucoup et appelle ses lecteurs à lire d'autres choses, mais aussi qui donne des clés de lecture, et pas seulement dans le chapitre 7, parce que on trouve, par exemple, ailleurs, des réflexions sur ce que c'est que l'ars historica, c'est-à-dire comment les historiens doivent lire les chronologies et les événements. Or, je constate que, à son tour, ce livre est une réflexion sur la lecture, une réflexion multiple sur la lecture, sur le fait de lire, et sur les lecteurs, et sur le rapport de Spinoza à ses lecteurs. Je veux dire par là que le livre interroge ce que c'est que le lecteur, les sortes de lecteurs, les attitudes des lecteurs. J'en prendrai comme exemple, alors évidemment, le dernier chapitre s'intitule « Le texte et son lecteur », mais c'est pas de celui-là que je vais parler, ou du moins pas en priorité. Je vais plutôt regarder le premier chapitre, qui lui concerne la correspondance de Spinoza, le traité théologique-politique dans la correspondance. Or, ce qui est frappant, c'est que la plupart des correspondants de Spinoza sont des lecteurs de Spinoza. Et la correspondance est une série de lectures de Spinoza par ses correspondants, d'interpellations sur cette lecture et de réponses de Spinoza à ces lectures. Quand ce ne sont pas des réponses de Spinoza à des lectures qu'on lui a demandé de faire d'autres choses. Par exemple, des traités de Boyle sur la chimie. Bon, je laisse ça de côté. Revenons aux lectures du traité théologico-politique. Il y a d'abord, paradoxalement, des lecteurs en attente. Je veux dire des lecteurs qui attendent que le livre soit publié, qui sont impatients qu'il soit publié. Et d'une certaine façon, Oldenburg se place dans cette position du pré-lecteur, du lecteur attentif et en attente avant même que le livre existe. Il attend la publication de l'éthique, il attend la publication des Principia, et à partir de 1965, il attend la publication du traité théologico-politique. Moyennant quoi, il se tait pendant 5 ans lorsqu'il l'a reçu. Ça doit lui avoir fait un choc tel qu'il lui faut encore 5 ans pour réfléchir avant de réécrire à Spinoza ce sujet, d'abord pendant les s'il est toujours vivant, et ensuite, puisque vous êtes toujours vivant, j'ai des questions à poser. Et il y a 2 années de dialogue qui sont peut-être les années les plus intéressantes de dialogue réel entre Spinoza et ses lecteurs. De dialogue réel continu, alterné. On peut s'intéresser par exemple aussi au dialogue avec Althusser, mais lui il est rapide. Une lettre de l'un, une lettre de l'autre. Donc il y a les lecteurs en attente, il y a les lecteurs amicaux et intéressés, Oldenburg encore après 1965, il y a les lecteurs critiques, c'est le cas de Welthuizen. Il y a aussi les lecteurs qui ne s'adressent pas à Spinoza pour parler de leur lecture, mais qui en parlent entre eux. Leibniz, par exemple, qui, lorsqu'il écrit Spinoza, ne lui parle pas du TTP, mais écrit à d'autres sur le TTP, et pour en dire le plus grand mal, et pour les encourager à le réfuter. Donc il y aura aussi toute une série de lectures qui seront des réfutations. Et puis, encore, des lectures de lectures, quand on regarde un peu l'histoire des publications après le TTP, des lectures de lectures où on reprochera par exemple aux cartésiens d'avoir mal réfuté le traité théologico-politique, donc d'en être par la même complice, parce qu'ils ne l'ont pas assez dénoncé. Ça va devenir un genre littéraire dans l'Allemagne du XVIIIe siècle, les réfutations de Spinoza et les réfutations de Descartes, architecte du spinozisme. Bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse le plus dans ton chapitre, ce sont les pages que tu consacres à un lecteur de Spinoza qu'on ne commente pas très souvent dans l'histoire du commentaire. Je connais pas beaucoup de textes qui sont consacrés à cette lettre-là. Peut-être parce que cette lettre ne se trouve pas au Pertuma. Je veux parler de la lettre de Stensen, Sténon, Saint Sténon, devrais-je dire, puisque maintenant l'Église catholique, oui, mais oui, il y a même quelques milliers de pages de procès de béatification que la pauvre Pinato Taro a lu d'un bout à l'autre sur la jonction de Minini pour essayer d'y trouver quelque chose sur Spinoza, elle n'a rien trouvé. Mais bon, ça lui vaudra quelques indulgences quand même, au moins de notre part. Sténon publie tardivement, en 1975, une lettre qui n'est pas adressée explicitement à Spinoza, mais quand on la lit, on voit qu'effectivement, l'auteur à qui il s'adresse, c'est Spinoza. Il l'écrit en 1871, donc dans l'année qui suit la publication du TTP. Et tu analyses de façon extrêmement précise et détaillée le contenu de cette lettre, et finalement, tu montres que Stensen, il a cette caractéristique d'être à la fois un lecteur hostile, mais en même temps un très bon lecteur. Je te cite, tu dis, examiner un texte... Il ne fait que demander à Spinoza d'appliquer à la lettre son traité. Autrement dit, Stensen a compris la méthode du traité, et sa lecture du traité consiste à la critiquer en lui appliquant sa propre méthode. Donc il ne fait que demander à Spinoza d'appliquer à la lettre son traité, examiner un texte à la manière de l'enquête historique et repérer les pratiques conformes au bien. Stensen a été un bon lecteur de Spinoza. Donc finalement, peut-être que les meilleurs lecteurs, ce ne sont pas les lecteurs sympathiques qui demandent des explications, ce ne sont évidemment pas les lecteurs absolument hostiles qui appellent à brûler Spinoza et son livre. Ça peut être quelqu'un comme Stensen. Or, Stensen, ça n'est pas n'importe qui. D'abord, c'est un scientifique. Donc, lorsque Spinoza se réclame de la méthode Morego Metrico, Stenson, c'est quand même l'inventeur de la minéralogie, l'inventeur de la cristallographie, c'est un grand physicien. C'est celui dont Leibniz dira qu'après sa conversion, il est d'excellent physicien devenu très mauvais théologien, mais ça c'est peut-être le mauvais esprit de Leibniz. Et puis c'est celui à qui, 6 ans plus tard, Tchernaos, pour le convaincre, remettra le manuscrit de l'éthique qu'il avait promis de ne donner à personne. C'est donc Stenson aussi qui ira remettre à l'Inquisition ce manuscrit de l'éthique. C'est en un sens indirectement grâce à lui que, toujours par Pino Totaro, mais cette fois elle est bien tombée, ce manuscrit a été redécouvert. Le manuscrit grâce auquel maintenant nous pouvons nous représenter ce qu'était le manuscrit de l'éthique en 1975, finalement c'est un peu grâce à l'Inquisition, un peu grâce à Tchernaos et beaucoup grâce à Stenson que nous l'avons. Or, donc, qu'a fait Stenson dans cette lettre ? Tu dis, c'est un très bon lecteur. Alors, c'est un très bon lecteur, d'abord, parce que il ne s'attarde pas, tu le soulignes, à défendre l'indéfendable. Les multiples petits miracles que les théologiens de bas étage défendent, il dit à Spinoza, bien sûr, ceux-là, tu peux les attaquer. Donc, il ne perd pas de temps en combat d'arrière-garde. Mais il défend un miracle, qui est la transformation de l'âme humaine. Mais à la limite, Spinoza pourrait dire que oui, ça c'est le seul vrai miracle. Il défend le fait qu'il faut discuter sur la base de la vraie philosophie, c'est aussi ce que dit Spinoza. Pensez à la réponse de Spinoza à Albert Bourg. Albert Bourg lui demande, est-ce que tu as la meilleure philosophie ? Et Spinoza répond, je ne sais pas si j'ai la meilleure, je sais que c'est la vraie. Stenson, 5 ans avant, se place déjà sur le terrain sur lequel Spinoza répondra à Albert Bourg. Autrement dit, il est en un sens non seulement un très bon lecteur, mais un lecteur, plutôt à cause de cela, un lecteur qui se place sur le terrain même de Spinoza. Et je crois que personne avant ton livre n'avait fait remarquer cela dans les études spinozistes. Donc voilà un premier point sur lequel ton livre nous éclaire sur un domaine pratiquement indéchiffré jusque-là. Indéchiffré, certes, parce que cette lettre n'avait pas été republiée dans The Opera Postuma, parce que c'est très tard qu'elle a été publiée en 1923-24 dans le Chronicon Spinozanum. Enfin, ça fait quand même un siècle qu'elle attendait, là, qu'elle était disponible. C'est pas parce que quelque chose est disponible qu'on s'en empare, comme chacun sait. Un deuxième point qui me paraît important dans le livre, alors Laurent vient d'en parler, mais je voudrais en souligner un autre aspect, c'est le Christ et la politique. Alors justement, tu montres quelque chose un peu en marge de ce qu'a écrit Matteron dans son livre fondamental et fondateur, Le Christ et le salut des ignorants. Le Christ est, en un sens, hors du système spinoziste, mais en un autre sens, ce qu'en dit Spinoza est conforme à la logique du système, la cohérence du système. Tu montres à quel point le Christ pèse sur l'histoire, ou n'est pas extérieur à l'histoire, mais surtout, je dirais que tu montres, sans que tu penses jamais le mot, que, comme Stenson, le Christ est un excellent lecteur. Parce que finalement, quand on regarde ce que Spinoza dit, que dit le Christ sur la loi, c'est-à-dire en quoi le Christ est-il le lecteur de la loi mosaïque. Spinoza en dit au fond 2 choses. Premièrement, que le Christ n'est pas venu pour renverser la loi. C'est écrit dans l'Évangile. Donc, il y a une espèce de cohérence ici entre la lecture de Spinoza et l'auto-lecture du Christ dans l'Évangile. Mais en même temps, le Christ indique autre chose que la loi. Ce que vient de rappeler Laurent, face aux lois de Moïse, il y a des moments où, tout en respectant l'esprit, on ne les applique plus, parce que l'État n'est plus là pour les appliquer. Autrement dit, respecter leur esprit, c'est ne plus en respecter la lettre. Autrement dit, le Christ se révèle un excellent lecteur de la loi, en ce sens précis qu'il en distingue l'esprit qui est faire vivre les citoyens de la concorde, et ne respecte plus la lettre, à savoir punir celui qui est un agresseur, parce qu'il n'y a plus de moyen de punir les agresseurs, si ce n'est de déclencher une série d'agressions insupportables, d'où le précepte de tendre l'autre joue, qui, contrairement à ce qu'on dit à certains en théologie chrétienne, ne contredit pas l'esprit de l'Ancien Testament, ne contredit pas la loi de Moïse, mais l'applique, la lit dans des circonstances différentes. Je lis le passage d'Henri Lot. Le Christ de Spinoza n'utilise pas un langage politique, mais la conjonction de sa sagesse, de sa pratique et de sa fonction critique. Alors, qu'est-ce que c'est que la fonction critique, si ce n'est une méthode de lecture? Je n'ose pas dire une herméneutique. Mais la conjonction de sagesse, sa pratique et de sa fonction critique, en différents contextes, indique sans reste son engagement en faveur de la puissance du corps social. Et l'engagement en faveur de la puissance du corps social, c'est l'engagement en faveur de la concorde. Autrement dit, quelques pages avant, autrement dit, celui-ci exerce celui-ci exerce un réel jugement, il montre un sens des adaptations que les circonstances historiques commandent pour répondre de la manière la plus précise à l'exigence d'un respect minimal possible de la justice. Ainsi, Henri Lot, lecteur de Spinoza, nous montre Spinoza lecteur de la fonction critique du Christ, qui consiste à montrer le Christ lui-même lecteur de la loi, dans une espèce de système de poupée russe ou d'enchaînement de lecture sur lecture, d'hyper-herméneutique, d'où il ressort que, au fond, ce rapport infiniment interrogé du Christ à la loi, suis-je venu pour abolir la loi? Est-ce que la loi doit être respectée ou pas? Qui va d'ailleurs diviser ensuite les premiers chrétiens, les rapports entre Pierre et Paul. Ce rapport, il se manifeste ici dans une pratique de lecture qui est une pratique de la lecture critique, sélectionnant entre l'esprit et la lettre à l'intérieur de la loi de Moïse. Et enfin, je voudrais m'attarder sur, alors enfin, le dernier chapitre et conclusion, le texte et son lecteur. Tu remarques quelque chose que souvent les commentateurs ne remarquent pas, c'est que Spinoza a certes des lecteurs réels. Tous ceux que je viens de citer là, Sensen, qu'il a connu dans sa jeunesse, mais dont il ne sait peut-être pas qui lui a écrit cette lettre, Oldenburg, Weltwiesen, tous les autres. Mais il a aussi, outre ses lecteurs réels, des lecteurs potentiels, des lecteurs que lui-même dessine. Puisque, dans l'éthique, un certain nombre de fois, il dit « Je prie le lecteur philosophe de ne pas s'arrêter là et d'aller jusqu'au bout de la lecture. » Et tu remarques que ce sont deux verbes qui sont autant d'apax dans l'éthique. Il faut perléguerer, lire jusqu'au bout. C'est-à-dire que Spinoza construit le portrait du lecteur idéal, le portrait nécessaire pour que le dialogue soit possible entre eux. Ce qui signifie que entre le Spinoza qui est dans la progression de la construction de l'éthique et le lecteur qui est au début de la lecture et le lecteur qui est à la fin, il faut construire un itinéraire qui mène ce lecteur de lecteur s'initiant à lecteur initié. Un lecteur à qui on s'adresse de deux façons, par la méthode géométrique certes, de théorème en théorème, mais aussi par les nombreux endroits où Spinoza fait le point en disant voilà ce que j'ai montré, voilà ce que je vais montrer, et qui sont autant de pré-lectures critiques faites par l'auteur lui-même afin de faire placer le lecteur, le lecteur empirique, dans la position du lecteur idéal. Or, ceci, c'est quelque chose que Spinoza entamait déjà dès le traité théologico-politique. À la fin du traité, Spinoza dit qu'il confie son ouvrage à la lecture des autorités de son pays, et quand il fait ça, il ne le fait pas comme la plupart des auteurs du XVIIe siècle qui dédient leurs livres au roi, au duc de machin chouette, au comte un tel, dans l'espoir d'avoir une pension, tout ce que vous voudrez. Lui, il le confie à la lecture des autorités pour que les autorités jugent si ce qu'il a écrit est conforme, non pas du tout au bon plaisir de cette autorité, mais est conforme aux lois de la patrie. Cette fois encore, il désigne un lecteur idéal, non pas le lecteur empirique que peut être le bon plaisir du prince, mais le lecteur idéal du législateur qui contrôle si un ouvrage est conforme aux lois, non pas, dit-il, de l'État ou de la nation, mais de la patrie, c'est-à-dire ce qui nous est commun à tous et dont nous héritons. Et cette constitution du lecteur en tant que tel, elle est tellement importante aux yeux de Spinoza qu'après l'avoir écrit dans le dernier chapitre, à la fin du dernier chapitre, il le réécrit à la fin de la préface, puisqu'il écrit la préface après avoir écrit le livre. Puisque la préface, il parle du livre au passé. Et il dit, je cite Henri Lau de nouveau, à propos de cette préface, « Elle se conclut par une adresse au lecteur, d'abord au philosophe, le mieux à même d'accueillir son discours, contrairement aux hommes trop pris par la superstition, et plus encore au lecteur qui n'a pas encore compris l'indépendance de philosophie de la théologie. » Autrement dit, cette adresse au lecteur qui semble si essentielle dans la pensée de Spinoza, soit dit en passant, encore une preuve que le spinozisme n'est pas la pensée d'un philosophe isolé, comme la légende l'a construit pendant un certain temps, mais au contraire d'un philosophe qui a besoin des lecteurs, mais pas de n'importe lesquels, donc qui les construit lui-même dans l'élaboration de ses ouvrages, aussi bien le TTP que l'éthique, eh bien, ce lecteur, il est indéfiniment pris à partie dans l'écriture même du texte. La conclusion, c'est que ce lecteur, finalement, ce lecteur empirique qui se rapproche de plus en plus du lecteur idéal, c'est peut-être l'auteur de ce livre, qui est assis ici, entre Laurent Bove et moi, comme le Christ entre les deux larrons. Je lui ai dit ça tout à l'heure, il m'a fait remarquer que si on regarde l'iconographie, j'occupe justement la mauvaise place. Mais bon, tant pis, j'y suis habitué. Qu'est-ce qui reste? Ce sera ma conclusion. Il nous reste à nous, et nous faire les lecteurs de cette lecture que tu nous as proposée.
Alors avant de revenir peut-être sur les sur un certain nombre de questions qui ont été posées, enfin je voudrais souligner quelques points. Et puis d'abord remercier beaucoup les intervenants, bon ce n'était pas une figure de style, remercier beaucoup Camille qui anime cette soirée, mais je remercie beaucoup Laurent et Pierre-François. On connaît leurs compétences, je voudrais dire aussi leur amitié, et c'est tout à fait précieux dans ce domaine de la recherche et de la lecture d'un auteur quel qu'il soit, Spinoza en particulier. Je voudrais vous remercier tous ici présents ce soir, et puis tout particulièrement aussi les collègues spinozistes qui sont là. Je suis très très sensible à leur présence, et je crois qu'il y a quelque chose de fort dans cette communauté de recherche spinoziste. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres auteurs et philosophes, mais enfin, je crois que l'on peut éprouver cette amitié et ce dialogue dont tu parlais tout à l'heure. Je crois qu'une communauté de recherche comme celle-là rend possible des travaux et des résultats. Que remercier aussi l'éditeur, les pubs, 3 ans après, Spinoza et le christianisme. J'ai noté trois points, à vrai dire. Trois points. Le premier point d'une présentation très, très générale pour ceux qui ne sont pas familiers de ce texte, pour leur dire que c'est un texte très, très particulier. Je pense qu'on a pu le sentir à travers les interventions que nous venons d'entendre. C'est un texte très particulier, d'abord très particulier dans l'histoire de Spinoza, puisque c'est le seul texte, si l'on peut dire, publié de son vivant. Bon, il avait bien publié les principes de la philosophie de Descartes, mais même s'il y avait son approche de Descartes, c'était un texte voilà consacré à un autre philosophe, mais il faut se représenter ce que cela peut signifier, le seul texte, donc ce que ça représente dans la trajectoire d'un auteur. C'est un texte très particulier aussi dans l'histoire de la pensée. On a souligné l'ébranlement qu'il a pu apporter. Un texte qui fait date dans l'approche de la politique concernant la souveraineté, qui fait date dans l'histoire de l'exégèse, dans l'histoire d'une compréhension de la religion, avec le déploiement d'une philosophie. Un texte très particulier par son objet, la liberté de parole, la liberté de penser, de philosopher, la liberté de croire et la manière de traiter cette liberté qui est son objet à travers toute une diversité des analyses, diversité au moins apparente parce qu'il y a une cohérence et une logique très très forte en cela. Un texte très particulier parce qu'il conjoint un engagement dans les débats d'une époque et une philosophie, dans leur réciprocité. Ou plutôt, on pourrait dire que c'est un engagement qui est une philosophie. Et le terme de l'engagement est à prendre à la lettre. Il y a un véritable risque pour Spinoza à publier ce texte. Il y a une urgence. Spinoza s'interrompt dans la rédaction de l'éthique pendant 5 années pour mettre au point ce texte. Il y a un risque réel. Quelqu'un comme Courbard, 2 ans avant, en 1668, son œuvre a été détruite, mis en prison. Il était promis à un bannissement permanent. Bon, il est mort dans les geôles des prisons d'Amsterdam. Quelqu'un comme Uriel d'Acosta, une 30aine d'années avant, s'était suicidé, enfin, dans tout un ensemble de conflits religieux. Donc, il y a un risque réel. Ce n'est pas théorique, de dire que c'est un engagement pris par Spinoza, d'où le côté anonyme, de la publication du traité. Spinoza va empêcher une traduction en irlandais, assez rapidement. Il y a cette phrase de Pierre Bell qui a été rappelée par Laurent, le traité, un livre pernicieux et détestable où il fit glisser toutes les semences de l'athéisme qui se voit à découvert dans les opéras posthumains. Donc dans l'éthique, et ce sera l'histoire de la réception de Spinoza au moins pendant le siècle suivant et encore après. Donc il y a toute une radicalité de ce texte. Les Lumières ne commencent pas au XVIIIe siècle, elles commencent là, pas seulement avec Spinoza, mais dans ce mouvement. On a pu parler de lumière radicale, enfin quoi qu'il en soit de l'expression, vraiment les Lumières sont très présentes là. Et je voudrais souligner aussi, à partir de ce que dit André Tauzet, Laurent a beaucoup souligné cette discussion avec Henri Tauzet, ce qui est très frappant dans le livre Tauzet, qui est une analyse politique, théologico-politique. Tauzet parle de l'œuvre de Spinoza dans son ensemble comme rencontre d'enjeux d'existence. Au titre, au sens collectif, mais individuel du terme. Autrement dit, cette l'œuvre de Spinoza, qui est extrêmement rigoureuse, n'est pas une mécanique conceptuelle. Elle peut éclairer l'histoire de chacun. Et Tauzet dit que si le traité est une théorie de l'histoire, il est aussi un livre de vie. Expression étonnante, inattendue, dans ce qui était sa thèse. Il parle d'un livre de vie, un livre d'amour écrit pour l'amour de ses lecteurs. Et on retrouve les lecteurs ici. Il parle même de la mission du traité. Je trouve que ce sont des termes extrêmement forts et un texte qui fait œuvre d'éducation, il est, dit-il, pédagogie du devenir, cause adéquate de la fin de la servitude. Cela nous dit quelque chose de la fécondité, je crois, de la profondeur de l'œuvre même de Spinoza, traité théologico-politique, mais l'ensemble de l'œuvre. Alors, mon deuxième point, bon, peut-être plus anecdotique, ce livre est présenté comme une introduction. Et la question se pose, qu'est-ce que introduire à une œuvre comme celle-ci, comme le TTP. Alors évidemment, il y a une première façon d'introduire de façon assez évidente, encore que, qui consiste à donner des repères de manière très, très systématique. Ici, l'idée d'introduction n'est pas venue tout de suite, mais à partir d'un matériau qui parlait déjà du traité, qu'il a fallu réorganiser, retravailler et repenser, hein, d'une certaine façon. Donc je dis cela pour les lecteurs que vous pouvez être, au sens où tout n'est pas commenté dans le traité. Mais je souligne deux points qui peuvent le caractériser comme introduction de mon point de vue. Il s'agit d'abord de faire entrer dans les enjeux du texte en commentant de près ou une certaine distance d'interprétation un certain nombre de champs conceptuels. La crise, la notion de crise, le traité fait entrer dans une crise et donne des moyens aussi pour surmonter cette crise. Il y a la crise, il y a la philosophie, le désir de philosophie, l'imaginaire, bon, l'éthique à partir de l'amour de Dieu, la politique, la liberté de parole. Donc il y a ces points, ces champs conceptuels qui sont constamment en interaction, hein, qui donne sens à l'ensemble. Mais il y a aussi ce que j'ai voulu faire paraître dans cet ouvrage, c'est un engagement peut-être quant à des points plus particuliers. On y a fait allusion, la réforme de l'imaginaire et la philosophie, les attributs pratiques de justice et de charité, et puis la question du texte qui a été mentionnée, la question du texte, le devenir lecteur et la citoyenneté qui est attachée à ce devenir lecteur, tout cela dans un devenir démocratique. Et donc je peux dire que, au fond, à travers ces analyses et les points de vue choisis, il s'agissait de considérer les effets de telle analyse particulière. On peut étudier Spinoza en considérant le plus objectivement possible le contenu d'un sujet, de ce qu'il étudie, mais à travers cela, voir les effets du texte. À travers l'analyse du chapitre 3 du TTP, de la vocation des Hébreux, on peut redire en effet ce qu'il y a dans cette critique de la vocation des Hébreux, mais à travers cela, il y a tout l'effet d'universalité, d'universalisation qui prépare au fond la position du lecteur et qui reconduit à considérer le statut des autorités. L'interprétation, celle du chapitre 7, mais qui rejaillit, hein, sur l'ensemble du traité, la liberté de parole, où Spinoza ne fait pas que défendre la liberté de parole, mais à travers cela, il montre une norme d'évaluation du champ politique, c'est-à-dire c'est une manière, à travers la liberté de parole autorisée, de considérer la démocratie, enfin possible, du champ politique, et puis la lecture et la citoyenneté. Et puis alors mon troisième point rapidement, c'est ce que j'appelle l'amour de la liberté et que je développe en conclusion. Les analyses font apparaître, c'est posé en introduction, mais cela apparaît à travers chacun des chapitres, la question de la liberté. Je dis, la formule a été rappelée, voici un texte qui fait signe, il fait signe vers la liberté, il en explore les voies. Et de ces voies, on voit la diversité. Alors, cela a été rappelé aussi, c'est autre chose que la tolérance. Le terme de tolérance ne figure pas chez Spinoza, sauf une fois, mais dans un tout autre sens, où il parle de ceux, des hommes libres et justes, qui doivent tolérer l'injustice. Donc, la tolérance, Spinoza ne s'exprime pas à ce niveau. Je crois qu'il y a plus et il y a plus profond, et c'est l'amour de la liberté. Et de fait, j'étais frappé peut-être que je travaillais davantage sur la cinquième partie de l'éthique à ce moment-là, j'étais frappé par ce scoli de la proposition 10 de la cinquième partie, celui qui s'applique à garder ses affects et ses appétits par le seul amour de la liberté, par le seul amour de la liberté, s'efforcera autant qu'il le peut de connaître les vertus et leurs causes et d'emplir son cœur du contentement qui naît de leur connaissance vraie, sans le moins du monde considérer les vices des hommes ni dénigrer les hommes et se réjouir d'un faux air de liberté. Le seul amour de la liberté. Et dans la préface du traité, vous voyez qu'on trouve à la fois dans ce texte des interférences, des connexions, un dialogue entre le TTP, l'éthique, la correspondance. Je crois que c'est assez légitime. Eh bien, dans la préface du traité, Spinoza évoque cette libre république d'Amsterdam où rien n'est tenu pour plus aimé et plus doux que la liberté. Et ce plus aimé et plus doux que la liberté, ce plus aimé vient au fond de caritas, carus, carius. C'est un apax du traité. Et je dis en note qu'on pourrait traduire encore plus latéralement par liberté chérie. Et ça peut évoquer aussi quelques hymnes républicains qui nous est connus. Voilà, la liberté n'est pas seulement instaurée, elle ne se réduit pas à disposer des procédures, il faut la considérer du point de vue de l'amour, l'amour de la liberté. À la fin de l'éthique, Spinoza dit « notre salut, notre béatitude ou notre liberté ». Donc, non pas contrer la servitude, non pas contrer la servitude, il y a à lutter bien entendu contre la servitude, mais il ne s'agit pas de contrer la servitude pour elle-même, mais de développer ce qu'il y a de plus puissant en l'homme avec la raison, une raison située dans l'histoire, dans tout un jeu de passions, bien sûr. La liberté est donc de l'ordre de la béatitude, du salut, de la connaissance, de l'amour de Dieu et on pourrait dire de l'éternité. Alors, je disais à l'instant, j'ai fait intervenir l'éthique aussi dans cette introduction, dans cette approche, ce qui n'est pas une originalité dans l'étude de Spinoza, hein, en raison de la cohérence de l'œuvre, et d'autant qu'il y a des indices textuels forts. Il y a un livre qui est d'ailleurs paru cette année, un collectif sur les relations entre les deux œuvres éthiques et TTP. Je n'ai pas pu m'y référer parce que mon texte était terminé. Voilà. L'amour de la liberté, la béatitude, la vie démocratique, je crois que cela éclaire bien l'unité de l'œuvre de Spinoza. Et j'ajoute dans cette conclusion que par l'amour de la liberté, Spinoza ouvre son œuvre en quelque sorte pour reprendre cette forme du lecteur, il ouvre ou il rouvre la lecture à la fin de l'éthique. Bon, l'interprétation de l'éthique est complexe, de la cinquième partie en particulier, mais Spinoza nous dit que chacun est invité à faire effort vers la justice, vers la charité, vers la paix, vers la concorde, vers le commun, par différentes voies. Mais cela rassemble, au fond, des exigences individuelles et collectives dans les conditions que Spinoza dit. Et je termine, d'une manière assez personnelle, cette conclusion en disant que la libre interprétation qu'il confie au lecteur est comme sa signature, une signature de Spinoza qui rouvre le texte, un texte extrêmement noué, enfin à la fois l'éthique et le traité théologico-politique, mais Spinoza ouvre le texte et je crois qu'il le confie aussi au lecteur que nous sommes et en signant ce texte, je dis, et ce sont les derniers mots du livre, que finalement le traité n'est plus anonyme. autant il a été anonyme dans sa parution, même s'il ne l'est pas resté très longtemps, autant nous pouvons bien reconnaître Spinoza dans ce qu'il écrit et dans ce qu'il écrit jusqu'au bout, y compris en particulier dans cette liberté, je crois, qu'il nous donne dans la lecture de son œuvre. Voilà les quelques points que je voulais dire. Alors, Camille.
Henri, peut-être, je me permets, il y avait une question de Laurent.
Oui, mais il y a eu de belles et fortes questions de... Et de Père François, bien entendu, et puis de Camille, bien entendu. Bien entendu. J'ai essayé d'honorer les trois, pas toutes, hein, ce sont des questions fortes. Oui, ce dialogue avec André Tozel m'avait marqué à l'époque parce que admiratif de l'attitude d'André Tozel qui proposait une confrontation. Je me souviens encore du dialogue que nous avions eu. Moi, ça m'avait beaucoup marqué. Et la question que je pose, voilà, y a-t-il exclusion entre le désir de la philosophie ou le TTP comme introduction à la philosophie, comme passage obligé, enfin comme ligne peut-être unilatérale de conduisant le lecteur encore ou théologien ou dans la superstition ou trop attaché à ses passions, ou le lecteur ou plutôt les autorités elles-mêmes, hein, dans leur volonté de domination. Voilà, est-ce que c'est le mouvement qui va conduire à sortir de cet univers pour passer intégralement, uniquement à la philosophie, ou bien est-ce que il faut pas prendre en compte, en effet, ce qui peut travailler la religion de l'intérieur? Et je crois que, en effet, il y a non pas à trouver là deux options exclusives, irréconciliables, mais à considérer non pas une honnête moyenne, hein, dans ce domaine-là, mais à considérer que c'est la philosophie même de Spinoza qui permet ce que j'appelle cette réforme de l'imaginaire, cette réforme des signes de la religion et de la Bible et du texte biblique, mais en même temps une prise en compte de tous les signes qui constituent l'historique et l'histoire de chacun. Autrement dit, je voulais poser l'homogénéité ou le rapport structurel qu'il y a entre le fait d'interpréter la Bible, les Écritures, à la manière que Spinoza propose, et la manière d'interpréter les signes qui constituent l'histoire. Au fond, chacun est exposé à des signes, à de l'arbitraire, à de l'inadéquat, à de l'adéquat. Comment faire l'histoire et l'histoire critique d'une manière analogue, toute chose étant égale par ailleurs, à ce qui se fait dans l'écriture. Voilà ce que j'appelais ces dimensions de l'historicité. Chacun est appelé à faire l'histoire de ces signes. Alors, la question, oui, du théologico-politique, Laurent, tu as posé la question du Christ, de ce qui est possible, de ce qui a été perverti, hein, dans son histoire ou dans la succession des communautés. Cette figure du Christ, en fait, le contenu le plus théologique concernant le Christ se trouve dans la correspondance, avec Oldenbourg, ce qui porte sur le refus de l'incarnation, de la résurrection, etc. Ce qui conteste le plus la dogmatique chrétienne. Mais il y a une manière dont le Christ figure dans le TTP et dans certaines parties de la correspondance, qui est très marginal. Au fond, le Christ intervient à la marge. Spinoza ne va pas lui consacrer un chapitre entier pour expliquer sa position. Donc, il intervient à la marge, et spécialement lorsqu'il s'agit de la politique. Mais ce que j'ai voulu montrer là, c'est l'intelligence politique du Christ qui désigne une posture permettant d'être dans la politique, d'exercer une fonction politique, de renforcer le lien social, de contribuer par là à faire du lien social quelque chose de sacré, comme tu dis, donc de contribuer à la puissance de ce corps collectif. Une intelligence politique du Christ, une intelligence politique de Spinoza interprétant le Christ, notamment à propos de certaines situations, lorsqu'on te tend la joue, tend l'autre, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose de très fort chez Spinoza qui recherche, évidemment, dans le contexte d'une philosophie politique attachée à l'obéissance au souverain. Et puis il y a la question, que fait-on dans l'obéissance au souverain? Que fait-on quand le souverain est un tyran? Il y a toutes ces questions. Il y a une obéissance radicale, mais en même temps une nuance extrême dans un État où il ne s'agit plus d'une démocratie bien réglée. Et Spinoza, à travers cet accent sur l'intelligence politique du Christ, montre des insistances, des accents pour des situations en temps de crise. Voilà. Ce qui est possible en temps de crise. Voilà. Lorsque l'injustice règne, comment déborder l'injustice? Comment déborder l'injustice, ce qui est autre chose que contrer l'injustice, mais finalement accepter ce qu'on ne peut pas changer et changer de l'intérieur, voilà, cette situation impossible. Et c'est là, je trouve qu'il y a une très grande pertinence dans l'analyse de Spinoza, la question de l'égalité politique. Peut-être que l'égalité politique, oui, alors c'est plus... Merci de ce rapport, oui, avec la liberté, enfin, de ce qui est montré dans le traité politique. Enfin, je prends acte de ce point. Et peut-être qu'en effet, l'égalité, c'est le droit à l'égalité, c'est du côté de la lecture. Peut-être qu'on va le trouver le plus. Et j'en viens à ce que... aux observations, aux remarques de Pierre-François. Oui, j'ai le dernier chapitre, disons, dans l'introduction, je parle des sept, oui c'est ça, il y en a huit en tout, des sept premiers chapitres, hein, qui sont les points qui se suivent. Enfin, je les résume, et je mets à part le dernier chapitre sur le texte et son lecteur, qui est une manière, évidemment, qui n'est pas extrinsèque au TTP, hein, que de venir sur ce point, puisqu'il y a bien, Spinoza s'adresse à des lecteurs, il y a une méthode d'interprétation. Que signifie cette méthode d'interprétation? Eh bien, dans un traité qui fait signe vers la liberté dans sa modalité, la pratique au fond, c'est la citoyenneté ici, hein, c'est-à-dire que chacun a capacité à devenir lecteur, et Spinoza en effet intervient dans son texte, alors d'une manière extrêmement concentrée dans un scoli de l'éthique. Voilà, c'était dans des mélanges Alexandre Matran que j'avais repéré, enfin de mon côté, que j'avais souhaité commenter ce texte, où il s'agit de tout lire, de lire jusqu'au bout. Et Spinoza va guider le lecteur, va résumer, va annoncer ce qu'il va faire, va prier le lecteur de ne pas tout vérifier, mais de vérifier à certains endroits. Au fond, le lecteur est comme associé à la lecture, à l'écriture du traité, par son intervention comme lecteur. C'est une caractéristique, au fond, un niveau second, mais en même temps extrêmement fondamental dans ce texte. Voilà, le lecteur n'est pas extérieur. Il entre. Alors on le voit dans la correspondance. C'est pour ça qu'il est important de lire les réactions des correspondants de Spinoza. Et en les lisant, en les comprenant, on devient en même temps co-lecteur et presque co-acteur, en tout cas. On contribue à écrire le traité par soi-même aussi, d'une certaine façon, enfin en le reprenant. Voilà, c'est un. Donc ce dernier chapitre est un chapitre différent par son accent sur la textualité, sur la possibilité de devenir lecteur, c'est-à-dire pouvoir lire déjà est un acte politique. Évidemment, ce traité est de part en part un engagement dans l'histoire, un acte politique où Spinoza a pris des risques considérables. Devenir lecteur, voilà, dans un temps où cela ne va pas de soi, où la capacité à lire peut être reprise, non autorisée, déformée. Où le texte peut être lu de travers, comment lire correctement. Et puis alors la question de Camille à propos de notamment oui la liberté géopolitique et la mystique, donc le lien avec un autre livre. Eh bien, à propos de Spinoza, je n'emploie jamais le mot mystique. Je crois que je n'ai jamais écrit à propos de Spinoza pour éviter beaucoup d'ambiguïté, je crois, et d'orientation qui n'ont pas lieu d'être. Enfin, si on prend les définitions traditionnelles de la mystique ou une fusion du fini, de l'infini, enfin, etc. Enfin, beaucoup de choses. Si je devais parler de mystique, alors là, c'est une hypothèse, si je devais parler de mystique, je le ferais à partir d'une définition qui est d'une certaine façon peut s'appliquer ici. Mais une définition que j'avais donnée, que j'ai présentée comme un tiers concept, c'est-à-dire allant au-delà des textes religieux, c'est l'ouvrage auquel faisait allusion Camille, où je disais, j'appelle le mystique le secret engendrement de la parole libre. Et ce secret engendrement de la parole libre, je l'appelle un tiers concept pouvant permettre d'éclairer un texte philosophique, une œuvre d'art, que sais-je. Alors, la parole libre, eh bien oui, la parole libre, elle est bien là. Enfin, c'est-à-dire le TTP, l'éthique, il s'agit bien de la liberté, de la parole. Alors, l'autre terme, c'est l'engendrement. Et je crois que c'est un terme qui convient, un verbe qui convient très bien, parce qu'au fond, la liberté dans l'éthique, elle n'est pas une production technique. La liberté n'est pas quelque chose qui se cause, qui se produit, enfin, pratiquement d'une façon mécanique. Je trouve que l'engendrement qualifie bien, enfin, je n'avais pas trop prévu d'aborder ce point ce soir, mais l'engendrement qualifie bien l'effort des conatus, l'effort de chacun pour persévérer dans son être, c'est-à-dire qu'il y a de la vie. On peut dire que de ce point de vue-là, il y a de l'engendrement des libertés. La liberté ne se produit pas techniquement, elle s'engendre. Et au fond, peut-être que l'éthique est bien un engendrement de la liberté à travers la diversité des conatus, des manières d'exercer sa puissance, de l'exercer ensemble les uns par les autres. Alors, il reste le secret. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Enfin, notre entendement fini, ben parce qu'il est fini, ne comprend pas tout, ne connaît pas tout, mais rien en droit ne lui est caché, hein, ou ne lui enlevé. Alors peut-être que la notion de secret qui serait à travailler et à bien comprendre pourrait qualifier eh bien ce que nous ne connaissons pas bien encore, ce que nous cherchons à connaître, ce qui nous échappe pour un temps, ou bien ce qui constitue le quotidien de l'histoire. Alors, secret engendrement de la parole libre, peut-être quelque chose comme cela, dans cette direction. Mais sinon, c'est un terme que je n'ai jamais employé, que je n'emploie pas pour Spinoza. Merci.
Merci beaucoup. Henri, la parole est maintenant à vous. S'il y a une question,
il y a peut-être des questions au baladeur, mais je ne sais pas où il passe. Non. Ah non. Il est caché.
Je me suis posé la question en parcourant votre ouvrage sur de savoir s'il y avait dans l'actualité quelque chose qui pourrait, ou Spinoza pourrait nous éclairer. Et je vais dire rapidement, il y a une... Comme ça. Il y a une revue qui paraît sur le web qui s'appelle Ténoua, Courage, Pensons, qui est publié par Delphine Orviller, qui est rabbin. Oui. Et elle a fait paraître un texte dans lequel elle dénonce les dérives d'un gouvernement qui met en danger Israël, son avenir et ses principes. Et alors elle a subi, suite à cet article, elle a subi pendant plusieurs jours des violentes attaques personnelles sur les réseaux. Alors suite à ces attaques, elle a publié donc 8 jours après, le 15 mai, une réponse dans laquelle je cite en particulier la préservation des valeurs morales et des leçons de l'histoire juive doivent nous guider dans le souci que la démocratie est la plus grande fidélité au sionisme. Et donc, j'estime qu'en, au fond, en publiant ce texte, elle a justement affirmé sa liberté de penser et sa liberté de parler. Et pour Spinoza, justement, la liberté de philosophie, de philosopher, qui s'exerce par la liberté de parler, est une condition de la paix, de la République et de la piété. Autrement dit, ma question, est-ce que vous ne pensez pas que Delphine Orviller est une des meilleures lectrices, à la fois convaincante, de Spinoza?
On peut prendre d'autres questions?
3, oui.
Bonsoir et merci pour ces exposés. Je ne sais pas si cette partie du texte est importante, mais tel Proust sur son pavé 10 juin, dans la préface, et puis par rapport à ce que vous avez dit sur la lecture, Spinoza s'adresse à son lecteur, philosophe, etc. Et il dit, au non-philosophe, sur un ton, je vous laisse écouter, au non-philosophe, je n'ai cure de recommander ce traité, n'ayant pas de raison d'espérer qu'il puisse leur convenir en aucune façon. Je sais en effet combien sont enracinés dans leur âme les préjugés auxquels, sous couleur de piété, ils ont donné leur adhésion. Je sais aussi qu'il est également impossible d'extirper de l'âme du vulgaire la superstition et la crainte. Je pourrais continuer, il y a encore 2-3 phrases sur ce ton, et je m'interroge sur pourquoi est-ce que Spinoza a besoin de parler du non-philosophe et rajoute ces phrases. Il pouvait s'arrêter à son lecteur philosophe. Voilà.
Peut-être une dernière question.
Alors, c'est une question tout à fait, j'allais dire, d'ordre de culture générale, parce que je ne connais pas bien Spinoza. Donc, c'est pas un a priori portugais. Lui a grandi dans les Provinces-Unies, donc à Amsterdam. Il a écrit ses ouvrages en latin et il a écrit aussi un traité sur de grammaire hébraïque. Donc au total, combien de langues vous pensez qu'il parlait et ou écrivait?
Mes voisins pourront s'y répondre. quant à la question des langues, on dit en général que sa langue la plus commune était plutôt le portugais, et que son prénom, évidemment, peut être Baruch, peut être Benedictus, mais devait être de la façon la plus familière Bento. Voilà. En même temps, Spinoza. Les langues, l'hébreu, évidemment, c'est un grand lecteur de la Bible, un peu le grec, dit-il, le latin, il l'apprend parce qu'il faut bien communiquer entre savants. Ensuite, les langues, je ne sais pas si on peut dire beaucoup d'autres choses. Voilà. Hein ?
Oui ? Oui, bon, j'ai eu l'occasion une fois de faire la liste dans un bouquin ancien. Donc, il a été élevé dans une famille où on parlait portugais, mais on avait où la langue de culture c'était l'espagnol. Résultat des courses, dans sa bibliothèque telle qu'on a fait l'inventaire à sa mort, il n'y a pas un seul livre en portugais. Mais il y a des ouvrages en espagnol, il y a les grands ouvrages du siècle d'or espagnol. C'est pas le seul moment où une communauté vit sur deux langues à la fois. Une considérée comme langue familière et l'autre considérée comme langue de culture. Bon, il a appris le latin parce que c'est la langue scientifique de son temps. Il l'a appris tardivement, donc il le parle, enfin il l'écrit d'une façon qui n'est pas aussi raffinée que celle de Descartes ou de Leibniz. Il a appris le néerlandais parce qu'il avait besoin dans la vie courante. Je me souviens des collègues néerlandais remarquaient que dans ses lettres, il utilise des dialectismes d'Amsterdam. Donc c'est pas une langue qu'il a apprise comme on peut les apprendre à l'école avec les normes réelles d'une langue. Il l'a apprise dans la rue. Sinon, il dit explicitement qu'il ne lit pas l'anglais puisqu'il attend que le livre de Boyle soit traduit en latin.
Il y a des ouvrages en français.
C'est pas probablement pas le français de façon très détaillée, puisque dans toutes ces bibliothèques, il y a que deux ouvrages en français, et ce sont des ouvrages dont il n'a pas de traduction dans une autre langue. Mais sinon, les ouvrages de Descartes, il les lit, soit les ouvrages latins, il les lit en latin, et les ouvrages français de Descartes, il les lit en traduction néerlandaise, ou en traduction latine. Donc le français n'est pas une langue avec laquelle il s'en familier. Je suis pas sûr qu'il sache lire l'allemand, mais enfin pour quelqu'un qui sait le néerlandais, c'est pas très difficile. Et puis il doit avoir une certaine maîtrise d'italien, puisque il a un rapport direct avec Machiavel, et il a été avec Machiavel dans sa bibliothèque. C'est tout. Oui, et puis il maîtrise l'hébreu écrit. Je pense pas qu'il ait jamais eu l'occasion de le parler. Et l'araméen, puisque c'est la langue dans laquelle il pense que les évangiles ont été écrits. Et il dit plusieurs fois qu'il ne maîtrise pas le grec. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, parce que quand les gens du 7e siècle nous disent qu'ils ne maîtrisent pas le grec, ça veut dire qu'ils ne le maîtrisent pas beaucoup. Mais ils le maîtrisent même beaucoup mieux que nous, après cette année de lycée où on a fait du grec. Mais c'est vrai que, par exemple, il n'a pas la réaction qu'ont certains de ses contemporains quand ils écrivent en latin. Bon, une des caractéristiques du latin, c'est qu'il n'y a pas d'article, et donc c'est impossible en latin de substantiver des verbes. Alors que dans les langues modernes, c'est très facile, on dit le boire et le manger, le savoir et le croire, etc., etc. Et les contemporains de Spinoza, quand ils écrivent en latin, ça les embête pas, de ne pas pouvoir mettre un infinitif comme substantif. Donc ils mettent comme c'est possible en grec, ils mettent devant le mot latin « to », l'article grec. Parce que s'ils mettaient le verbe « legere » tout seul, ou le verbe « docere » tout seul, ça ferait bizarre dans la phrase, parce que ça aurait l'air d'un barbarisme, d'un solécisme. Donc ils mettent « to legere » ou « to docere », etc. Et Spinoza ne le fait pas, parce que il me semble que ça prouve qu'il n'y a pas de familiarité réelle avec le grec, parce que c'est pas une langue qui manipule. Il doit savoir quelques mots, il doit savoir le chiffrer, mais il ne peut pas s'en servir pour manipuler le latin comme font ses contemporains, ou comme font certains de ses contemporains. Bon, faut savoir aussi que les gens qui le lisent, par exemple, un pasteur calviniste a appris le latin, le grec et l'hébreu, forcément. Sans grec, on ne peut pas dire pasteur. Donc les gens qui le critiquent, eux, ils ont lu les évangiles en grec, par exemple.
Par rapport à la première question, là, je ne vais probablement pas répondre grand-chose, parce que j'ignore tout, enfin, du contexte, enfin, etc., enfin, de la précision de ce qui a été dit. La liberté de parole, de toute façon, la liberté de parole chez Spinoza, enfin, Spinoza s'interroge jusqu'où faut-il accorder la liberté de parole, hein, jusqu'où faut-il l'accorder. Alors, ce n'est pas une... apparemment, c'est une restriction, parce qu'on va trouver scandaleux si la liberté de parole est absolue. Pourquoi parle-t-on de limitation et de restriction? Spinoza dit, liberté de parole, oui, mais c'est vraiment l'espace du politique. N'est pas possible ce qui est séditieux, ce qui remet en cause le pacte. Voilà. Ce qui va donc contre la puissance collective dans des conditions très très particulières, et de fait, il n'est pas vrai dans la société que tout puisse être dit. Il y a évidemment des opinions, des paroles et des opinions qui ont valeur d'acte, qui tombent sous le coup de la loi. Donc il y a bien de la restriction, comme dans toute démocratie, mais ça ouvre un espace infini, enfin, si on peut dire, pour exprimer des opinions et des pensées. Mais tout cela dans le cadre d'un État qui a sa loi, et les religions aussi doivent s'inscrire évidemment dans le cadre de l'État. Fabienne pose la question de cette. J'ai senti une indignation là dans ce refus, mais oui, mais la préface de fait a ce ton très 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 redoutable, hein, polémique aussi, attaquant toutes les religions qui finalement, enfin, on ne reconnaît les croyants qu'à la différence de leur habit, parce que pour le reste elles sont après tout à peu près toutes pareilles. Donc quand il dit je ne m'adresse pas au non philosophe, évidemment qu'il s'adresse à tout le monde dans ce traité, mais il met l'accent sur celui, enfin, il provoque celui dont il voit que le contexte et la situation et la posture finalement est un refus de la philosophie. Mais son projet est bien d'amener autant qu'il le peut, hein, à la philosophie ou aux diverses voies de la philosophie. Peut-être d'autres questions. Est-ce que...
Bonsoir à tous. Merci pour les différents expositions. Peut-être c'est une question vraiment de quelqu'un qui connaît pas du tout de Spinoza, donc peut-être c'est trop innocent la question. Mais en lisant un auteur contemporain comme Levinas, on voit rapidement les différentes critiques par rapport à Spinoza, et surtout quand il voit toute cette orientation d'une philosophie de la liberté, de la puissance, de la identification. Et peut-être je voudrais poser la question sur cela, qu'est-ce que vous pensez? mais aussi, je ne sais pas si il y a quelques paradoxes dans cette formulation de l'amour de la liberté, si peut-être dans l'amour même il y a quelque chose qui n'est pas du tout libre et que ça implique un autre regard par rapport à la question de la liberté. Mais bon, merci.
D'accord. Oui, évidemment, le rapport de Lévinas à Spinoza, hein, c'est tout un champ d'études, avec des, je crois qu'on portait des considérations extrêmement diverses. On voit beaucoup la position de Lévinas par rapport à Spinoza dans deux articles qui doivent être séparés d'une dizaine d'années. Le premier article, je ne sais plus le titre du premier et du deuxième, avez-vous relu Baruch et puis le cas Spinoza. Dans le premier article, Lévinas est extrêmement critique par rapport à Spinoza, qu'il a accusé de récupération chrétienne, en particulier de ne pas avoir respecté suffisamment son identité juive. Le deuxième article est très différent, et probablement, enfin, ce qui a pu se passer entre les deux, c'est que Lévinas a probablement parlé avec Sylvain Zach. Sylvain Zach, qui avait écrit L'idée de ville, l'interprétation de l'écriture, enfin, voilà. Donc son regard a changé, hein, beaucoup plus positif. Bon, le Conatus, bon, est présent, enfin, dans l'œuvre de Lévinas. Hein, donc il y a à propos de la critique de l'élection, là, de la vocation des Hébreux, moi je cite Lévinas qui dit que Spinoza aurait pu avoir un ressentiment vis-à-vis de sa communauté, hein, vis-à-vis de la synagogue, vis-à-vis de la communauté qu'il avait exclue, enfin, quelles que soient les raisons de cette exclusion. Mais justement, il en parle au conditionnel. Il en parle au conditionnel. Spinoza aurait pu avoir éprouvé ce sentiment, ce qui est une manière, je crois, de trancher sur cette question, c'est-à-dire qu'il exclut cette interprétation et ce type de lien. Alors je retiens la question, oui, l'amour de la liberté. Au fond, est-ce qu'il n'y a pas de la servitude dans l'amour? Non, enfin, c'est un petit peu de cet ordre-là. Je crois que l'amour de la liberté, enfin, tel qu'il se comprend, enfin, tel qu'on le sent et le perçoit, enfin, c'est vraiment un amour, c'est une liberté à un niveau, je dirais, métaphysique, c'est-à-dire que on est dans la cinquième partie de l'éthique, hein. On est dans l'amour intellectuel de Dieu, on est dans l'expérience de l'éternité. Nous sentons et nous faisons l'expérience que nous sommes éternels, hein. C'est l'amour qui est mis en valeur ici, qui n'est pas un amour de réciprocité avec Dieu, c'est-à-dire nous ne nous efforçons pas pour que Dieu nous aime à notre tour. Hein. C'est une attitude tout à fait différente de l'ordre de l'union et de l'identité la plus profonde du sujet. Je crois.
Oui, merci beaucoup pour cet échange. J'ai une petite question, enfin une réflexion qu'a faite Pierre-François, qui m'inspire m'inspire quelque chose concernant la construction du sujet, du lecteur, on peut dire point par point, par le texte même de l'éthique. C'est certain, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse, et la piste que que ces remarques m'inspirent, c'est qu'au fond, ça projette peut-être une lumière aussi supplémentaire sur ce qu'est le mos geometricus. C'est-à-dire, il me semble que le mos geometricus n'est pas simplement, peut-être, apprendre du point de vue de son contenu, de sa matière, donc de la démonstration en elle-même, mais c'est un mos, c'est-à-dire qu'il est destiné à produire un habitus. Et dans cette mesure-là, je ne sais pas si tu es d'accord, mais il me semble qu'il y a un certain nombre de démonstrations, en particulier à partir de la quatrième partie de l'éthique, qui suppose un lecteur déjà instruit et ayant incorporé les résultats de certaines démonstrations, de certaines propositions donc précédentes, en particulier relevant de la troisième partie. Donc je ne sais pas si tu as eu l'occasion de te confronter dans l'étude des démonstrations de la quatrième partie à ce type de situation.
La question s'adresse à Pierre-François.
Oui, mais tu peux avoir un avis.
Oui, mais on verra. Il aura aussi. Non, pas ça.
Oui, effectivement, je pense qu'il y a un moment où ça bascule. C'est à la proposition 18 de la quatrième partie. Quand il dit « Maintenant, j'ai montré pourquoi ça ne marche pas. » Si vous faites un effort, je vais vous expliquer aussi pourquoi ça peut marcher. Et entre le milieu du scoli de la proposition 18 de la quatrième partie de l'éthique et la suite, il suppose à ce moment-là que le lecteur lui-même a été en partie transformé par ce qui précède. Que le lecteur est devenu conscient des lois de la nécessité. Et maintenant, le but de la suite de l'ordre géométrique n'est plus de le convaincre des lois de la nécessité, mais de le convaincre de pénétrer dans les lois de la liberté. Et de lui convaincre que c'est possible, quand même. En ce sens, je dirais, le spinozisme est un dysfonctionnalisme.
Mais c'est ce qui fait, oui, au fond, c'est ce qui fait constamment, enfin très régulièrement dans l'éthique, parce que le Scoli, la 11 de la deuxième partie, enfin dont je parlais, où il prend son lecteur par la main, subitement, il s'arrête sur une difficulté. Il dit ici, les lecteurs ne comprendront pas et risquent de s'arrêter. Et probablement que le lecteur cartésien type n'aura pas compris le développement qui apparaît à ce moment-là. On pourrait dire, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas dit avant, hein, puisque déjà, la première partie, la substance et les attributs, voilà, il y a déjà beaucoup de difficultés. Mais à un certain moment, Spinoza s'interrompt, enfin, dans le raisonnement, le soutient, et je crois qu'on peut dire que finalement, ce soutien, il est partout, quoi, dans l'éthique. Il est partout dans l'éthique. S'il s'explicite à telle césure, hein, voilà, comme celle-là et comme d'autres, en fait, il est partout. C'est-à-dire, c'est partout que le lecteur doit être encouragé et à lire et à tout lire et à lire jusqu'au bout. Oui. Mais c'est une expérience, quoi. C'est une expérience. Place pour l'une ou l'autre question. Et si tu veux.
Oui. Dans le chapitre 3 du TTP, Spinoza dit que les fondements de la religion juive efféminent l'âme des juifs. Et donc, j'aimerais, si c'est possible, d'expliquer pourquoi, selon Spinoza, c'est le cas.
La question que les...
Alors, attendez, je vous lis le passage, si vous voulez. Donc, c'est par rapport au chapitre 3 du TTP. Spinoza explique que les fondements de la religion juive effémine l'âme des juifs. Et donc je voulais comprendre pourquoi est-ce que c'était le cas, parce que j'ai pas bien trouvé le détail dans les TTP. Donc c'est enfin le signe de la circoncision en cette affaire peut avoir, à mon avis, une telle influence que cela seul, dans ma pensée, conservera éternellement cette nation. Bien plus, si les fondements de la religion des juifs n'efféminaient leurs âmes, je crois absolument qu'un jour, à une occasion donnée, les choses humaines changeantes, comme elles sont, ils relèveraient de nouveau leur empire et que Dieu les choisirait encore une fois. Donc ça... C'est une... On pourrait dire qu'il annonce un peu la naissance de l'État juif, mais bon, ma question c'est plutôt sur le fait qu'ils considèrent que les fondements de la religion juive efféminent leur âme, l'âme des juifs.
Oui, le fondement de la religion juive effémine, affaiblit l'âme. L'âme des juifs. Alors dans ce passage précis là, voilà, il faudrait resituer de fait afin ce terme, ce verbe. Ben, on est dans un chapitre de façon extrêmement polémique. Hein, donc sa critique du peuple juif, elle commence dès le tout début du chapitre, hein, au sens où le peuple revendique un privilège, voilà, qui exclut les autres. C'est-à-dire que la vocation n'est pas du tout une bénédiction pour tous les peuples, enfin tel que la comprend Spinoza là. Donc déjà le premier paragraphe, enfin voilà, est une critique très 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 radicale. Cet affaiblissement, de l'âme des Juifs. Oui, écoutez, là, je saurais pas en dire beaucoup plus. Oui, parce que...
Oui, dans l'ensemble de ce qu'il dit sur la République des Hébreux, il considère au contraire que à l'époque où la République des Hébreux existait, alors c'est en chapitre 17, alors, 18, hein, le type d'union entre l'État et la religion était tel que... ça assurait la paix. Il n'y a pas de guerre civile, sauf une fois exceptionnellement. Et deuxièmement, ils étaient difficilement vaincus par des étrangers tant qu'ils respectaient les lois de la patrie. Ils n'ont commencé à être vaincus que quand ils ont cessé de les respecter, pour des raisons qui sont explicables. Et même à l'époque des Romains, alors là, il s'appuie sur des références à Tacite, qu'il cite sans le nommer, les Romains ont pu voir par la résistance des Juifs à quel point cette connexion sous la forme d'une patrie entre religion et État les rendait pratiquement invincibles. À partir du moment où cette connexion a disparu, cette religion qui ne fonctionnait bien que en tant que loi de la patrie a perdu sa force. Donc ceux qui continuent à pratiquer cette religion, à moins qu'ils retrouvent un moyen de refonder une patrie, ont ce qu'il appelle l'âme efféminée. Après, on pourrait s'interroger sur la notion d'efféminement.
Je vois qu'il y a une dernière, mais sinon on va... Une dernière, et puis c'est l'heure. Ce n'est pas trop compliqué.
Bonsoir. Je prends le risque. Je voudrais vous demander en tant que jésuite, ça fait 30 ans que je connais entre guillemets Saint Ignace, et ça ne fait que 2 ans que je connais Spinoza, et depuis 2 ans que ça m'intéresse beaucoup et que je lis beaucoup de Spinoza. Peut-être parce que je suis portugais et ça me dit beaucoup. Mais ce que je trouve, c'est qu'il y a un grand rapport entre la vie de Saint Ignace et de Spinoza. C'est très curieux de voir que Spinoza, il fait un chemin de foi en tant que juif, et après il brise et il fait un chemin hors religion, tandis que Saint Ignace, il fait un chemin de pêcheur. Et à 27 ans, après une guerre, il rentre dans la religion. Et ce que je voudrais vous demander, c'est combien ils se ressemblent, à votre avis, alors, les points communs entre les deux. Parce que en tant que jésuite très intéressé en Spinoza, je trouve qu'il y a beaucoup d'un commun entre les deux, et dans une recherche de Dieu, de vérité, de sens, Et voilà, je voudrais vous demander, peut-être vous pouvez juste nous dire d'une échelle de 0 à 180, ou si vous pouvez énoncer quelques points, et ça me ferait beaucoup de plaisir. Merci.
C'est très géométrique ce que vous me demandez, là, l'échelle de 0 à 100. Là, vous me posez une question difficile, enfin, qui est un petit peu hors cadre. Alors, évidemment, quand on compare des itinéraires, hein, on peut trouver, je dirais, tout itinéraire, tout ce qui passe de la servitude à la liberté peut rassembler évidemment des personnages et des histoires. Donc, à partir de ce point de vue-là, à partir de ces termes, hein, de ces expériences aussi massives de servitude et liberté, on peut situer chaque personnage. Mais vous comprenez bien que évidemment les contextes sont extrêmement différents, les références sont extrêmement différents. Alors je peux pas développer évidemment plus que soi, enfin plus que cela, mais tout ce système de l'affectivité, enfin des passions primitives, enfin des affects primitifs, enfin, sur désir, joie, tristesse, cette dynamique affective du désir qui est compris constamment entre joie et tristesse, peut-être qu'autour de consolation et désolation, on pourrait trouver quelques rapprochements. Voilà. Mais je n'irai pas plus loin pour l'instant, mais on peut en parler si vous voulez.
Merci beaucoup Henri, Laurent et Pierre-François. Merci à tous et très bonne soirée.
Merci à vous là pour votre... Oui.